Je vais vous présenter Gaspard de la nuit, autobiographie de mon frère par Elisabeth de Fontenay. Alors c'est un ouvrage de 132 pages, publié en septembre 2012 par les éditions Stock. Le livre, de lecture facile, comporte 52 chapitres très courts, la majorité ne dépassant pas deux pages. On chemine de façon totalement chaotique, de chapitre en chapitre, sans fil conducteur net, en dehors du vécu d'un proche handicapé. Les sources biographiques sont brèves, 6 références allant des écrits de Althusser, de Primo Levi, en passant par Michelet, Descartes, Nietzsche, et se terminant avec Marguerite Duras. Plus qu'un livre parlant de philosophie, il s'agit plutôt d'un livre de confession d'un professeur de philosophie et non d'un philosophe, âgé de 86 ans, qui se penche sur l'handicap de son frère, âgé lui de 82 ans, dont elle a la charge. Son frère a un trouble grave du comportement. Elisabeth de Fontenay retrace son accompagnement dans l'enfance à Paris avec ses parents, l'hébergement dans une institution en Suisse, avec sa présence durant les vacances, l'utilisation des neuroleptiques sur son frère, le séjour dans une institution d'adultes près de Toulouse, en compagnie d'animaux, et son rôle de tutrice depuis la mort de sa mère. À cette charge de sœur auprès d'un handicapé, s'ajoute un secret de famille, uniquement connu après le décès de sa mère, l'emprise de la Shoah sur la famille maternelle. Pour analyser cet ouvrage intimiste, on retiendra 4 chapitres. La personnalité de l'auteur, indispensable pour comprendre le livre, le ressenti de la Shoah sur une famille juive ayant un enfant porteur de troubles du comportement, le vécu d'un frère handicapé mental par une sœur devenue philosophe. Et enfin, du point de vue littéraire, nous nous pencherons sur le titre très poétique mais non anodin de l'ouvrage « Gaspard de la nuit ». Biographie d'Elisabeth de Fontenay, excuse-moi, tu dois tout connaître. Si habituellement, dans la présentation d'un livre, on est assez bref sur la personnalité de l'auteur, dans le cas présent, comme il s'agit d'un livre intimiste, s'apparentant à des confessions, il convient de s'attarder sur le parcours de l'écrivaine. Elisabeth de Fontenay est née en 1934. Son père, Henri Bourreau de Fontenay, est un avocat, catholique de droite, mais soutien du Front populaire, amateur de la chasse à cour en Normandie, résistant de la première heure et premier directeur de l'École nationale d'administration. Sa mère, Nessia Orstein, d'origine juive, sa famille ayant fui Odessa en 1905 au moment des pogroms pour la France. Sa mère a été élevée dans la religion catholique et deviendra dentiste à Paris. Elisabeth est élevée dans la religion catholique à Neuilly et scolarisée à Sainte-Marie de Neuilly. Elle abandonnera la religion catholique pour adopter la religion juive après avoir pris connaissance d'un secret de famille à la mort de sa mère. Agrégée de philosophie, elle terminera sa carrière comme maître de conférences à la Sorbonne à Paris. Les auteurs qui l'ont influencée sont son maître Jankélévitch, Foucault, Derrida. Son intérêt philosophique se portera sur Karl Marx, le matérialisme de Diderot, puis vers les années 2006, la condition animale, et en 2014 et 2017, la question juive, avec son dernier livre en 2017, En terrain miné, avec Alain Ficalcroft. Deuxième chapitre, le ressenti de la Shoah et la notion de secret. La narratrice, dans ce livre de confession autour de son frère, ne peut s'empêcher de soulever un secret de famille. Le judaïsme de sa mère, qu'elle a découvert que quelques jours avant la mort de celle-ci. En effet, pendant la guerre, sa mère a exercé le métier de dentiste avec des faux papiers. Elle cacha à sa fille l'extermination en mars 44 de sa mère, sa sœur, son beau-frère et ses deux cousins en Allemagne. Élisabeth n'apprit la nouvelle que par une amie de sa mère, qui possédait une lettre de sa mère datant de 1945, où celle-ci s'inquiétait de la perte de sa famille. Élisabeth ne put avoir de vive voix aucune information de la part de sa mère, celle-ci étant décédée quelques jours avant l'information de la lettre. La notion d'eugénisme entre dans le livre l'esprit de l'auteur en raison de l'handicap de son frère. Elle condamne les livres d'Alexis Carrel. Elle rapporte les sacrifices des handicapés mentaux dans les asiles en France et l'extermination en Allemagne de 100 000 adultes handicapés et de 5 000 enfants entre 1939 et 1945. Par contre, elle prend la défense de l'évêque de Münster qui, en 1941, prêche contre l'eugénisme de son pays. Vis-à-vis de Kierkegaard, de Heidegger, elle reste complaisante en disant « J'ai toujours refusé de débusquer dans son œuvre l'introduction du nazisme dans la philosophie. » Mais pourtant, en pensant à son frère, elle reconnaît que dans son livre « Être et temps », Heidegger rompait avec les philosophes de la vie, en citant les handicaps mentaux comme les animaux, privés de monde ou pauvres en monde, vivent, mais n'existent pas, finissent, mais ne meurent pas. Le vécu d'un frère ayant des troubles du comportement, vu par sa sœur philosophe, forme le cœur de l'ouvrage et ce sujet a deux retentissements sur l'auteur. Premièrement, la sœur, habituée à manipuler des concepts par son métier, a été confrontée à la réalité de la vie quotidienne d'un être humain qui dit rarement « je » et ignore le « tu ». Depuis la mort de sa mère, Élisabeth, c'est Élisabeth qui la tutrise son frère et elle se trouve confrontée au monde de l'handicap mental. Le type de trouble de comportement de Gaspard reste flou dans le livre. Il semble s'agir d'un autisme sévère. Cette situation familiale a amené Élisabeth à se confronter au philosophe avec Descartes. Son frère, qui avait la parole rare, n'avait rien à voir avec le mutisme animal et ne signifiait aucunement qu'il n'était pas un être de langage. Dans son discours de la méthode, Descartes réhabilite son frère en rapatriant les hommes hébétés et stupides, mais en excluant les bêtes de l'univers des hommes. Par décision philosophique, il déclare « l'âme ou le langage ou la pensée apanage des seuls êtres humains ». Élisabeth de Fontenay prend la défense de Descartes face à certains défenseurs des animaux en considérant Gaspard comme différent avec les humains normaux, mais aussi par sa différence évidente de son manque d'à-propos avec celui des perroquets. Descartes lui a permis de sauvegarder l'humanité de son frère et Gaspard, de son côté, lui a permis de dire non à l'animal-machine. Nietzsche vient à son secours en lui permettant d'accepter la différence de son frère en reconnaissant d'autres formes de rationalité et son injuste excès de la finitude. Car selon Nietzsche, il faut sans cesse que nous enfantions nos pensées dans la douleur et que, maternellement, nous leur donnions ce que nous avons en nous de sang, de cœur, de joie, de tourment et de fatalité. Deuxièmement, c'est pas la singularité humaine de son frère dont elle a la garde, qu'Élisabeth de Fontenay doit l'attention qu'elle porte aux animaux et à leurs conditions. Mais sur ce chapitre, Elle ne suit pas l'Australien Peter Singer, philosophe utilitariste, auteur en 1975 de La libération animale, qui pose la question, en cas de naufrage en mer, qui du chien fidèle ou d'un handicapé profond doit être jeté à la mer. Peter Singer pense que tous les êtres doués de sensibilité devraient recevoir un même statut moral. Il place les animaux dans la même catégorie que les nouveau-nés, les arriérés et les déficients mentaux. Elisabeth de Fontenay critique la disciple de Singer, Paola Cavalieri, qui prône l'extension des droits de l'homme aux primates en évoquant ces êtres vivants non représentatifs de l'humanité qui sont les handicapés mentaux, les définissant de moindres hommes, et réclame, au nom des primatologues, l'accord des droits de l'homme aux singes. Enfin, du point de vue littéraire, nous nous pencherons sur le titre très poétique de l'ouvrage « Gaspard de la nuit ». Il ne s'agit sans doute pas du roi mage Gaspard, porteur de l'encens à l'enfant Jésus, mais peut-être du Gaspard Hauser, mis en valeur par le poème de Verlaine, inspiré du Gaspard Hauser, né à Nuremberg en 1828, fils d'un prince, séquestré dans une cave pendant 17 ans, réapparu à Nuremberg avec une lettre destinée à un officier ayant séjourné dans une caserne de la ville. Confié à la tutelle d'une famille de la ville par le bourgmestre, malheureusement le Gaspard se suicidera quelques années plus tard. Mais il s'agit plutôt d'Aloysius Bertrand, avec son recueil de poèmes en prose intitulé « Gaspard de la nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot ». Cette référence est plus probable en raison de la vie de l'auteur et surtout du cheminement du livre, non paru du vivant de l'auteur. Aloysius Bertrand, 1807-1841, est le fils d'un lieutenant de gendarmerie de Napoléon. Il a vécu en Bourgogne, à Dijon, et il était contemporain de Lacordaire. Il a publié des poèmes en prose, événements pour l'époque, dans la presse locale et à Paris. En 1833, il propose à un éditeur parisien un recueil de poèmes, mais obtient un refus. Il décède de tuberculose à l'hôpital de Necker à Paris en 1841. C'est la femme du sculpteur David d'Angers qui rachète le manuscrit à l'éditeur en faisant faire une préface à Sainte-Beuve, et il n'a été vendu que 20 exemplaires de cet ouvrage. C'est en 1866 que Baudelaire fait republier l'ouvrage à 402 exemplaires à Alençon, chez Poulet-Malassis, qui avait publié « Les fleurs du mal ». Ce livre a été encensé par Mallarmé. Fait cocasse de l'ouvrage, qui était dédié à Victor Hugo, il contient ce poème. Alors qu'un bibliophile s'avise d'exhumer cette œuvre moisie et vermoulue, il y lira à la première page ton nom illustre, Victor Hugo, qui n'aura pas sauvé le mien de l'oubli. Ça, c'est écrit le 20 septembre 1836. Cet historique de l'œuvre d'Aloysius Bertrand explique le titre du livre d'Elisabeth de Fontenay, résumé complètement dans le dernier chapitre 52 de son livre. Maintenant que je me suis souvenu de nous, que j'ai marché à ta recherche, que je t'ai en quelque sorte dessiné, mais sans parvenir à te représenter, je veux te nommer. Sans plus craindre de te porter malheur, tes parents t'ont appelé Gilbert Jean. Et si je tiens finalement à laisser une trace de ton prénom, c'est après que nous aurons l'un et l'autre disparus, sans descendance, notre nom et nos prénoms, imprimés, sauvegardés, survivront un temps dans le clair-obscur des bibliothèques, qui sont les seuls tombeaux où il arrive parfois qu'un lecteur vous fasse revivre. Et je me permets de vous donner le poème de Verlaine et les trois poèmes de Aloysius Bertrand, qui s'appellent Ondine, Gibé et Scarbeau, qui ont été utilisés par Ravel pour composer en 1908 Gaspard de la Nuit, que je vous conseille de réétudier. Thank you.